Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Et ce soir, on reviendra très largement sur les suites des intempéries dramatiques de vendredi dernier dans l'arrière-pays niçois. Emmanuel Macron est sur place au chevet des sinistrés. Des annonces, on les entendra, ont été faites. Mais au-delà de l'urgence, comment éviter ces drames face à la multiplication des épisodes météo extrêmes que l'on sait irréversible? Faut-il déplacer les maisons? Faut-il déplacer les villages? Et revoir l'urbanisation? C'est le grand débat de ce soir dans le Club des Idées à partir de 19h10. Un invité exceptionnel également au programme ce soir, l'auteur du best-seller mondial Sapiens, Yuval Noah Harari. Il revient en librairie avec une adaptation BD très réussie, l'histoire de l'humanité, sa vision sur le Covid. Il sera avec nous dans 15 minutes. Et puis le télétravail en question, on en parlera avec les grandes voix. Des négociations sont en cours avec les partenaires sociaux. Alors le travail à la maison, jusqu'où et pour tout le monde? Réponse tout à l'heure. Voilà pour le menu de ces deux heures. D'abord, c'est le journal avec l'info. Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Faut surtout pas nous oublier.
Non,
on a eu la, mais on a eu la sensation d'être oublié pendant 48 heures.
La nation sera avec vous. Emmanuel Macron promet d'aider les sinistrés des Alpes-Maritimes. Un président qui écoute et qui réconforte.
Oui, nous serons sur place dès le début de ce journal avec l'envoyé spécial d'Europe 1 et ses habitants qui ont donc reçu la visite du chef de l'État.
Bruxelles, encore plus radicale que Paris dans sa lutte contre la propagation du Covid. Demain, tous les cafés ferment pour un mois.
La récompense suprême, le Nobel de chimie, décerné à une Française et une Américaine, Emmanuel Charpentier, a mis au point un drôle d'outil. On parle de ciseaux moléculaires, de génome, d'ADN. On vous explique tout cela dans le journal.
Et puis on sera aussi à Roland-Garros, où l'on connaît l'affiche des demi-finales dames et où l'on dispute en ce moment les deux derniers quarts de finale, messieurs. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,27% à 4882 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa, bonsoir. Deux salles, deux ambiances au programme demain, deux temps bien différents.
Oui, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Entre la moitié nord et la moitié sud, demain l'ambiance sera effectivement bien différente. L'automne pour les uns, le printemps, voire même l'été pour les autres. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Un président aux côtés des sinistrés. Emmanuel Macron a donc passé de longs moments cet après-midi à tant de villages coupés du monde depuis les intempéries du week-end dernier.
Avec toujours ce même message, on sera là pour vous aider, on ne vous lâchera pas.
Le chef de l'État qui a pris le temps d'écouter la douleur, la détresse, la peur de l'avenir également, avec quelques échanges très forts, notamment écoutés avec cette habitante de Tende.
Il ne faut surtout pas nous oublier.
Non,
on a eu la, mais on a eu la sensation d'être oublié pendant 48 heures.
Sais,
vous savez que c'est très dur. Il y a des gens qui ont tout perdu. Nous, on essaye de faire face, mais on peut pas rester solide longtemps. Il faut nous aider maintenant. Il ne faut pas nous oublier. Il faut refaire notre belle roya et qu'on revive. Faut pas... D'accord ? Comme avant. Merci.
On se bat. Non, mais nous, on fera les investissements qu'il faut et on y mettra les moyens.
On se bat, mais on a besoin de vous, monsieur le Président.
Ça sera là, monsieur le Président.
Non, mais on sera là.
Jean-Jacques Herry, on vous retrouve, vous êtes depuis hier à Tende pour Europe 1. Alors on vient d'entendre cet échange, il y en a eu beaucoup d'autres. Emmanuel Macron a pris le temps s'arrêtant pour parler pratiquement avec chaque personne.
Oui, puisqu'après avoir rencontré les bénévoles et les secours, le chef de l'État est resté plus d'une heure à discuter avec les habitants, comme Marie, que l'on vient d'entendre dans l'extrait qui vient d'être diffusé. Et pour les personnes présentes, meurtries par la catastrophe, parfois au bord des larmes, la visite présidentielle était un marqueur très important, car ici on attend beaucoup de ces mots prononcés cet après-midi.
Bah, qu'il tienne ses promesses, qu'il soit mis en place pour qu'on ait déjà un accès, ne serait-ce que par l'Italie. Des hélicoptères toute la journée, faire la queue pour manger, c'est pas une vie quoi.
Il y a un mot qu'Emmanuel Macron a beaucoup entendu, hein, le mot oublié, car pendant deux jours, les habitants de la Roya ont cru qu'ils étaient les grands ignorés de cette catastrophe. Des victimes invisibles qu'on a mis trop de temps à aider. C'est ce que ne s'est pas privé de rappeler Roland au président.
Je lui ai dit qu'il devait s'assurer que la Roya ne soit pas oubliée par rapport aux trois vallées. Tout ça pour des problèmes d'influence d'hommes politiques sur les deux autres vallées. Estrosi et Ciotti, qui sont natifs des autres vallées. On attend beaucoup de la mise en service du rail pour amener denrées et compagnie. Et également tout le matériel pour reconstruire nos routes, nos ponts et redonner une vie une vie à temps.
Emmanuel Macron qui s'est ensuite envolé à nouveau, saluant depuis les airs la petite foule au sol par la fenêtre de l'hélicoptère. Une foule qui, elle, n'espérait qu'une seule chose, que toutes les paroles prononcées cet après-midi ne soient pas des paroles en l'air.
Jean-Jacques Herry, envoyé spécial d'Europe 1, attendent dans les Alpes-Maritimes.
Et lors de ces discussions avec les habitants, le président de la République a à plusieurs reprises évoqué cet après-midi le fonds Barnier comme outil susceptible d'aider les sinistrés.
Alors de quoi voulait-il parler ? De quoi s'agit-il, Élise Dangean ?
Alors il s'agit du fonds de prévention des risques naturels majeurs créé en 1995 par le ministre de l'Environnement de l'époque, Michel Barnier, financé par nos cotisations à l'assurance habitation. Sa mission originelle et principale, c'est de financer les expropriations de logements exposés à un risque de catastrophe naturelle, ceux qui sont trop dangereux pour être habités. Concrètement, ce fonds fournit une aide financière à ceux qui doivent se reloger. Mais depuis, son champ d'application s'est élargi. Il sert aujourd'hui à pallier les dommages qui ne sont pas indemnisés par les assurances habitation classiques, mais aussi à subventionner les travaux préventifs. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron a évoqué ce fonds Barnier, il l'a dit très clairement, il a été créé pour nous aider à être résilients. On va réinvestir dans la vallée, a-t-il promis, mais on ne va pas reconstruire à l'identique.
Merci Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Et à 19h, on sera dans un autre village, hein, lui aussi sinistré, à Breil-sur-Roya. Emmanuel Macron qui se rendra ensuite à Saint-Martin-Vésubie, d'où il s'exprimera à 20h sur TF1 et sur France 2.
Oui, face à la pandémie de coronavirus, maintenant, les pays européens musclent les uns après les autres leur politique sanitaire avec de nouvelles restrictions.
En Allemagne, Berlin et Francfort annoncent la mise en place d'un cessez-le-feu de 23h à 6h du matin, ainsi qu'une restriction des contacts sociaux.
Oui, et à Bruxelles, où l'on vous retrouve, Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 sur place. À Bruxelles, ce sont des mesures encore plus drastiques qu'en France qui vont être appliquées dès demain.
Et oui, dès demain matin, 7h, tous les bars et cafés de Bruxelles devront rester fermés pour un mois complet. À Paris ou à Marseille, ces mesures n'ont été prises à chaque fois que pour 2 semaines. Selon le porte-parole fédéral pour le coronavirus, la capitale belge est désormais la 2e ville d'Europe dans laquelle le virus se propage le plus vite, derrière Madrid, mais devant Paris. Un test sur 7 effectué ici est positif. Les Bruxellois ont appris cette fermeture des bars à la mi-journée. Elle vient s'ajouter aux restrictions annoncées hier soir qui s'appliquent, elles, à toute la Belgique à partir de vendredi matin. Les contacts sociaux vont être limités. Il sera juste possible de voir 3 personnes, toujours les mêmes, dans le mois qui vient. Tous les autres contacts devront avoir lieu masqués ou à distance. Tous les indicateurs sont au rouge, se justifient les autorités. D'ailleurs, les gouvernements des régions de Bruxelles et de Wallonie eux-mêmes sont en quarantaine à cause de cas positifs. Ceci dit, pas facile de s'y retrouver pour les Belges car les restrictions venaient d'être assouplies il y a une semaine seulement.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Et notez que les pubs et les cafés de 5 régions d'Écosse sont également fermés pour 2 semaines.
Ça fait mal ça pour les Écossais. Hein. Ouais. 18h07, la suite de votre journal. Les obsèques cet après-midi de Victorine d'Artois à Bourgoin-Jallieu. La jeune fille de 18 ans avait été retrouvée noyée il y a 10 jours dans un ruisseau à Villefontaine.
Jean-Luc Boujon, vous avez assisté à cette cérémonie devant près de 600 personnes au cours de laquelle les parents de Victorine ont pour la première fois pris la parole.
Oui, c'est vrai que jusque-là, on n'avait pas encore entendu ni le papa ni la maman de Victorine, pas même à la marche blanche de dimanche dernier. Ils étaient trop effondrés pour prendre la parole, mais pour cette famille catholique très pratiquante, cela avait du sens de s'exprimer aujourd'hui dans l'église de Bourgoin, à l'image de la maman, Sylvie.
Ma petite fille, tu me manques. Tes rires communicatifs, tes câlins, ta voix, ton regard si bleu et si doux. Tu laisses à celles et ceux qui t'ont aimé une tendresse particulière par ta douceur et l'amour qui émanait de toi. Je t'aime, ma petite fille. Veille sur nous du haut du ciel.
Voilà des mots prononcés face au cercueil blanc de Victorine, lui-même posé sur des milliers de pétales de fleurs. 300 personnes avaient pris place dans l'église et environ 500 dehors sur le parvis où un écran géant avait été installé pour retransmettre la cérémonie, une cérémonie bouleversante.
C'est émouvant, mais on dit qu'il ne faut pas pleurer parce qu'elle voulait une cérémonie joyeuse. C'était une fille très très joyeuse, depuis petite. Mais c'est dur de se dire qu'elle est plus là.
Partir à cet âge, c'est inconcevable. Ça pourrait être ma petite fille, c'est horrible.
Voilà des anonymes bouleversés par ce décès et qui réclament l'interpellation au plus vite de l'agresseur. Justement, lundi dernier, le parquet de Grenoble a annoncé la création d'une cellule d'enquête dédiée à cette affaire, composée de 10 enquêteurs de la gendarmerie à plein temps.
Jean-Luc Bougeon à Bourgoin-Jallieu pour Europe 1. Dans l'affaire Théo, ce jeune de 21 ans blessé par une matraque lors d'un contrôle de police en 2017 à Aulnay-sous-Bois, affaire très médiatisée, le parquet de Bobigny requiert la requalification des faits de viol aggravé en violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique.
Oui, le parquet demande également le renvoi devant la cour d'assises des trois policiers impliqués dans cette affaire.
Donc, Théo, grièvement blessé, qui souffre d'une infirmité permanente. Il avait reçu à l'époque à l'hôpital la visite de François Hollande, alors président de la République.
Dans l'actualité également ce soir, ce deuxième jour d'audition pour Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne.
Les magistrats s'intéressent notamment à des versements en liquide en provenance du régime libyen qui auraient été réalisés via l'un de ses anciens collaborateurs, Thierry Gobert, lui-même mis en examen dans ce dossier pour association de malfaiteurs.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, la suite de votre journal d'Isabelle Millet à 18h11. Deux femmes honorées dans une même discipline. C'est bien simple, c'est la première fois que ça arrive depuis la création du prix Nobel. C'était en 1901. Cerise sur le gâteau, évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir. L'une de ces deux femmes est donc française.
Et elle s'appelle Emmanuelle Charpentier. Avec l'américaine Jennifer Doudna, elles ont découvert un outil révolutionnaire de manipulation génétique.
Bon, alors c'est vrai que dit comme ça, ça paraît très abstrait. Expliquez-nous tout, Laure d'Autriche.
Alors, Emmanuelle Charpentier a créé une méthode, la méthode CRISPR-Cas9, qui permet de modifier les gènes humains, des morceaux d'ADN, pour lutter contre certains cancers et guérir certaines maladies, et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui le prix Nobel de chimie. C'est un outil capable de modifier un gène existant, qui permet aux scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où ils veulent, et ce mécanisme est souvent représenté avec une paire de ciseaux qui copie-colle l'ADN. Alors souvent, le Nobel est décerné 20 ou 30 ans après que la découverte a été faite. Mais là, sa découverte date de 2012, il y a 8 ans seulement. Et aujourd'hui arrive la consécration, dit Emmanuelle Charpentier.
J'ai visiblement reçu beaucoup de prix. Celui-ci est très particulier puisqu'il est considéré comme l'ultimate distinction de tous les prix qu'un scientifique ou qu'une scientifique puisse recevoir. Même si, et je pense que c'est de notion commune, qu'un jour un prix Nobel serait donné à la découverte CRISPR-Cas, ce matin j'étais très très émue, oui, en effet, très très émue, et je le suis encore.
Et rien ne prédestinait pourtant Emmanuelle Charpentier à se tourner vers la science. Elle est la fille d'un responsable des espaces verts et d'une surveillante en psychiatrie. Enfant, elle aimait l'école, elle avait envie de faire de longues études et ses études l'ont donc emmenée sur le terrain de la génétique. Elle a d'ailleurs tout à l'heure lancé un message aux jeunes filles intéressées par la science en leur disant « Rien n'est impossible, vous pouvez faire des découvertes fantastiques ». Emmanuelle Charpentier a 51 ans. Avec sa collègue américaine, elles deviennent les 6e et 7e femmes à remporter un Nobel de chimie.
Ben vous savez quoi, j'ai fermé les yeux, je vous ai écouté et j'ai tout compris.
Ah,
merci Laure d'Autriche pour ce récit.
Il était l'un des premiers juifs à avoir été déporté de France pour Auschwitz en mars 1942. On a appris aujourd'hui la disparition à 97 ans de Simon Gutmann.
On file à Roland-Garros, suite et fin ce mercredi des quarts de finale.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Alors on connaît désormais l'affiche des demi-finales dames. La Tchèque Kvitova affrontera l'Américaine Kenin et la Polonaise Świątek jouera contre l'Argentine issue des qualifications Nadia Podorowska. Et sinon, Corinne Boulou, on vous retrouve en direct. Sinon, en ce moment, eh bien, vous suivez l'avant-dernier quart de finale du tableau messieurs. Hein.
Qui vient de s'achever à l'instant, Isabelle, sur la victoire de Stefano Tsitsipas, le grec 6e mondial, qui élimine le russe Andrei Rublev. 7-5, 6-2, 6-3, après à peine 2 heures de jeu. C'est la deuxième demi-finale en Grand Chelem pour le jeune grec de 22 ans. La première, ici, à Paris, et il connaîtra son adversaire à l'issue du quart de finale qui va succéder dans quelques instants à ce match et qui opposera le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, à l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Ces deux-là s'étaient affrontés en US Open et c'était à l'issue de ce match, que Novak Djokovic avait été disqualifié.
Merci beaucoup Corinne Boulou. Notez que le Masters 1000 de Paris-Bercy aura bien lieu du 31 octobre au 8 novembre. Ça y est, c'est confirmé.
Ben oui, je me posais la question justement. Ça tombe bien. Merci voilà. Isabelle. On vous retrouve à 18h30. 7h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa qui nous a rejoint. Deux saisons en une journée demain. C'est à peu près ça le programme.
Oui, ça va pas être la même ambiance entre le nord et le sud. Et dès le début de la journée, des Pyrénées à la Côte d'Azur et en Corse, il fait très beau demain. Profitez-en. Sur le reste du pays, le ciel est couvert avec attention à l'ouest, sur le centre et en Bretagne, de nombreux nuages bas. Des grisailles, prudentes si vous prenez la route demain matin. Dans l'après-midi, la France est coupée en deux. Au nord de la Loire, c'est l'automne avec un ciel gris et quelques averses. Au sud de la Loire, c'est printanier, voire même estival. Les températures, comptez 4 à 16 degrés demain matin, 4 à Manosque, 13 à Paris.
C'est large.
Et
4 à 16 degrés.
À La Rochelle, ouais, c'est pas la même ambiance partout. Et dans l'après-midi, ça sera aussi différent entre le nord et le sud. 16 à Nancy, 18 à Quimper, 19 à Paris. C'est bien meilleur sur la moitié sud avec 21 à Clermont-Ferrand, 22 à Nice et 25 à Nîmes pour la maximale.
Je me souviens ce que vous avez dit hier, va falloir en profiter. Eh oui.
Encore vendredi et après ce week-end,
bon,
c'est l'hiver.
On vous dit tout demain et dans les jours qui viennent. Merci Anissa,
à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir un invité exceptionnel dans Europe Soir à 18h20, il est l'un des auteurs les plus vendus au monde avec son livre Phénomène Sapiens, la naissance de l'humanité, sorti il y a quelques années maintenant. Eh bien, il revient aujourd'hui en librairie avec l'adaptation en bande dessinée. J'ai le plaisir d'accueillir Yuval Noah Harari. Bonsoir et merci infiniment d'avoir choisi Europe 1 pour cette première interview radio.
Hello, thank you for having
Bonsoir,
me here.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors donc, cette adaptation du livre Sapiens en bande dessinée, c'est très réussi avec deux co-auteurs, David Van Der Meulen et Daniel Cazenave. On vous suit à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre ce qui a permis à l'espèce humaine de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Le format BD, j'imagine que c'est aussi une manière de toucher un nouveau public, peut-être plus jeune.
Oui,
pas simplement des gens plus jeunes, mais des gens plus âgés qui ne lisent pas d'ordinaire des livres scientifiques, mais qui pourraient trouver quelque chose de plus attirant dans la BD. C'est une expérience avec des manières très très différentes pour raconter l'histoire, pour raconter la science. Une partie du livre, c'est comme la TV-réalité. Une autre partie, c'est comme un livre policier. Et encore une autre partie, c'est comme un film d'action avec des super-héros. On essaie différentes façons de raconter la science.
Le fait d'avoir des images et des illustrations par rapport au livre, ça a modifié votre récit ?
Totalement. Parce qu'une fois qu'on doit dessiner des choses, il faut répondre à beaucoup de questions. Et dans le texte, on peut simplement les ignorer, ces questions. Par exemple, dans la version originale de Sapiens, j'écris que les êtres humains ont découvert le feu. Mais je n'ai pas besoin, en écrivant, de dessiner les humains. Et là, dans la BD, il faut dessiner qui a découvert le feu. Est-ce que c'est quelqu'un d'âgé ou est-ce que c'est une jeune femme? Est-ce qu'ils ont la peau noire ou la peau claire? Et soudain, il y a beaucoup plus de questions et auxquelles il faut répondre parce qu'il faut les dessiner.
Oui, c'est une question aussi de point de vue. Alors, Yuval Noah Harari, comment expliquez-vous l'incroyable succès de votre livre, le premier Sapiens, qui est devenu un best-seller planétaire?
Probablement parce que ça répondait à un véritable besoin. Nous vivons dans un monde globalisé, mais la plupart des gens, ce que les gens apprennent à l'école, c'est l'histoire locale, l'histoire nationale, et les gens ont besoin d'une perspective globale, mondiale, sur le monde entier et sur l'humanité elle-même. Et c'est ce que Sapiens a fourni, cette grande image de l'histoire, de façon accessible. Donc je pense que c'était véritablement ce qui a beaucoup attiré dans ce livre.
Et le fait aussi, peut-être que vous créez des ponts entre des disciplines très éloignées. Vous expliquez par exemple que l'humanité s'est bâtie sur des mythes communs, les dieux, les religions, les nations et même les marques. Vous prenez par exemple, on en est flatté d'ailleurs, l'exemple d'une marque française, Peugeot. Et vous dites que plus que des voitures, des usines et des salariés, Peugeot, c'est d'abord un mythe, c'est d'abord une légende, c'est une histoire. C'est ça aussi qui rend votre livre, je pense, passionnant.
Oui, on n'y pense pas d'ordinaire. On pense que les récits sont des choses que les Grecs ont racontées sur Zeus, Héra, etc. Mais l'économie moderne est construite également sur des entités fictives. Pensez à Peugeot, par exemple, ou Toyota, ou Tesla, ou une autre marque. Qu'est-ce que c'est une marque? Qu'est-ce que c'est une entreprise? C'est une fiction créée par un narrateur très fort qu'on appelle un juriste. En tout cas, en anglais, on dit que les entreprises sont des fictions légales. Ce sont des histoires fictives, mais qui ont, si vous voulez, une base légale, juridique. La même chose avec l'argent. Peut-être que l'histoire la plus réussie au monde, ce n'est pas l'histoire de Jésus ou l'histoire de tel ou tel Dieu, c'est l'histoire de l'argent.
Oui.
Il y a beaucoup d'argent qui ne croient pas en Jésus ou à Mohamed ou à Bouddha, mais il y a quasiment personne qui ne croit pas à l'argent. Et cet argent, que ce soit l'euro ou le dollar, et l'histoire c'est que l'argent n'existe que dans notre imagination. Bien sûr, le bout de papier, le morceau, par exemple, l'euro lui-même a une forme physique, mais la valeur, elle est simplement dans notre imagination. Ce n'est pas comme une pomme qu'on peut manger concrètement. Et même des choses comme, regardez, des nations entières, ce sont des récits. Peut-être que c'est la chose la plus difficile à comprendre sur l'histoire. C'est le fait que nous vivons au sein d'un rêve de gens qui sont morts. Toutes ces nations, toutes ces entreprises, toutes ces religions qui façonnent notre vie, ce sont simplement des rêves collectifs que des gens ont commencé de rêver il y a des siècles et parfois il y a des millénaires. Et nous sommes toujours vivants et nous vivons au sein de ces rêves.
Alors on suit dans cette BD absolument fabuleuse cette évolution de l'humanité au fil des pages, avec de l'humour, avec de la pédagogie, avec des super-héros aussi, pour comprendre cette fameuse révolution cognitive qui fait que nous sommes devenus, eh bien, des êtres intelligents. En quelques mots simples, Yuval Noah Harari, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux ?
Les êtres humains, eh bien, les êtres humains sont des animaux. C'est le fait fondamental. On n'est pas des entités supranationales, super extraordinaires. On est des animaux différents des autres parce que nous pouvons coopérer de façon beaucoup plus élaborée que tout autre animal. Et nous pouvons le faire parce que nous pouvons créer et croire en ces récits fictifs. La grande différence entre nous et les chimpanzés, par exemple, ce n'est pas que individuellement nous sommes plus intelligents que les chimpanzés. Si vous avez une compétition entre un être humain et un chimpanzé, je ne suis pas certain que l'être humain la gagne, cette compétition. Mais les êtres humains peuvent collaborer, coopérer en centaines, en milliers, en millions, en milliards. Et ce n'est pas le cas des chimpanzés. Parce que les êtres humains peuvent créer ce récit, cette narration fictive, et pas les chimpanzés.
Oui.
On ne pourra jamais convaincre un groupe de chimpanzés de construire un hôpital ou construire une cathédrale ou d'aller se battre contre un autre groupe de chimpanzés en leur promettant que, en le faisant, si jamais ils meurent, ils iraient au paradis des chimpanzés. Et là, vous recevrez des tas de bananes et des noix de coco et des tas de choses comme ça.
Alors, Yuval Noah Harari, vous êtes encensé aussi par les plus grands, le président Obama, Bill Gates, Zuckerberg, le patron de Facebook. Tout le monde adore vos livres. Est-ce que ça n'est pas d'ailleurs difficile parfois de garder la tête froide quand on est perçu comme vous, comme un messie?
Ça crée quelques problèmes. Mais je dis et je répète aux gens, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un gourou, je ne prédis pas l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, je ne peux pas donner de bons conseils politiques ou de bons conseils dans la direction des affaires. J'essaie d'être historien et de comprendre les mystères de l'humanité. Qui nous sommes? C'est déjà assez difficile comme ça.
En parlant...
Sans rentrer dans les histoires politiques ou économiques.
Alors justement, en parlant de politique, est-ce que vous savez d'ailleurs si le président Trump a lu votre livre ?
Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Il est trop occupé et il n'est pas très connu pour lire des livres autres que les siens.
Bien, un dernier mot, il nous reste quelques secondes, Yuval Noah Harari. Est-ce que la pandémie de Covid-19 a changé votre vision du monde ?
Pas vraiment. Les pandémies sont partie prenante de l'histoire de l'humanité. Et en fait, cette pandémie, comparée aux précédentes comme la peste noire ou la grippe espagnole n'est pas très grave.
Oui.
Malheureusement, en dépit de la situation d'aujourd'hui, nous n'avons pas la résolution ou l'intelligence de nous unir suffisamment pour lutter contre cette maladie. Nous sommes êtres humains beaucoup plus forts que les virus, mais si nous faisons bon usage de nos super-pouvoirs, et notre super-pouvoir, c'est la coopération. Le grand avantage des êtres humains sur les virus, c'est que nous pouvons coopérer de telle manière que les virus ne peuvent pas le faire.
Oui.
Mais si nous n'utilisons pas ce super-pouvoir, alors là, à quoi sommes-nous bons ?
Bon, c'est un message d'espoir, donc, pour terminer. Merci infiniment, Yuval Noah Harari. Et je rappelle votre BD formidable. Ça s'appelle Sapiens, la naissance de l'humanité. Les dessins sont absolument formidables. C'est avec David Van Der Meulen et Daniel Cazanave. Et ça sort aux éditions Albin Michel. Merci à vous.
Thank you very much.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
On va reconstruire étape par étape. Emmanuel Macron dans les Alpes-Maritimes aux côtés des sinistrés. La nation sera présente dans la durée, promet le chef de l'État, qui s'est rendu dans les villages les plus touchés par les intempéries alors que l'arrêté de catastrophe naturelle a été signé aujourd'hui. Tour de vis sanitaire en Belgique, fermeture pour un mois des bars et des cafés à Bruxelles et dans sa région face à la recrudescence de l'épidémie. À quelques heures du débat des vice-présidents ce soir aux États-Unis, Donald Trump à la traîne dans les sondages, traite son rival Joe Biden de cinglé. Ça fait des années, dit-il, son QI est très faible et tout le monde le sait. Décidément, on ne l'arrête plus. Julien Alaphilippe, le nouveau champion du monde, remporte aujourd'hui la flèche Brabançonne en Belgique. À Roland-Garros, le grec Tsitsipas en demi-finale pour la première fois. Et puis France-Ukraine ce soir au Stade de France, match amical. 1000 spectateurs et 14 joueurs ukrainiens forfaits pour cause de Covid. Il y en a un également côté français.
Bon, ça promet du grand spectacle ou pas d'ailleurs.
Ou pas.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h pour le journal et l'info. La météo avec Anissa qui est en plateau avec nous évidemment. Gris au nord, Anissa, demain ensoleillé au sud.
Oui, c'est bien résumé. Hein. C'est effectivement une France coupée en deux que nous allons avoir demain. Avec pour commencer des Pyrénées jusqu'aux Alpes-Maritimes, un soleil généreux qui s'impose dès le matin. Attention tout de même sur le quart sud-ouest, sur la façade atlantique, sur la Bretagne, le centre. Là, nous aurons demain matin de nombreux brouillards. Dans l'après-midi, au nord de la Loire, c'est l'automne. Le ciel est gris, avec de la Normandie aux frontières belges, encore quelques averses. Et au sud de la Loire, là c'est le printemps, il fait très beau, le soleil s'impose dans un ciel complètement dégagé avec une petite hausse des températures. L'atmosphère est donc très agréable demain sur la moitié sud du pays. Les températures, 4 à 16 degrés demain matin. Dans l'après-midi, il fait plus doux avec 15 à 20 degrés sur la moitié nord et 18 à 24 degrés au sud. Nous aurons même jusqu'à les 25 degrés en Provence demain après-midi.
25 degrés en Provence.
En profiter, ouais.
C'est dommage, on habite à Paris.
Ouais. Oui. On va penser à eux.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h34, le débat des grandes voix avec ce soir, je le disais, Charles Villeneuve et Catherine Ney. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Julien.
Faut-il tous passer demain en télétravail ? C'est l'un des grands enjeux du moment. Le gouvernement exhorte les entreprises à privilégier le travail à la maison. La pratique ne concernerait qu'un salarié sur 10, en tout cas cet été. Les DRH disent que cela pourrait monter dans les semaines ou les mois qui viennent à presque un salarié sur 4. Alors tous demain en télétravail. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, on l'écoute.
Moi, je vous confirme que le télétravail reste une pratique recommandée, a fortiori quand on est dans des zones où le virus circule beaucoup. Ça permet d'être moins nombreux sur son lieu de travail, ça évite de prendre les transports en commun quand on est dans une grande métropole, donc ça reste évidemment une pratique recommandée.
Voilà, une pratique recommandée, Charles Villeneuve. Demain, télétravail pour Charles Villeneuve, vous signez ?
En tout cas, je signerai, ne serait-ce que pour éviter les transports en commun, décongestionner la circulation, comme vient de le dire Mme Elisabeth Borne, et je suis d'accord sur son analyse, c'est vrai. Ça permettrait aussi, si vous voulez, de réanimer en quelque sorte les villes moyennes, à partir du moment où on peut travailler. Mais, et d'ailleurs, il y a des mesures qui ont été faites et qui montrent que vous disiez là 10%,
oui.
Combien peut,
10% des salariés et demain 25%.
Demain 25%. Eh bien, la dernière mesure que j'ai vue, que j'ai pu constater, que j'ai relevée, si le 34% des salariés souhaitent que le télétravail soit mis en place dans leur entreprise, surtout dans le secteur du tertiaire.
Oui, c'est là où c'est plus facile.
Bien sûr.
Quand
mais le secteur du tertiaire, c'est 60% de l'économie mondiale.
Oui.
Et en même temps, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que s'ils publicitent cette modalité d'organisation du travail, les salariés étaient 66% à vouloir venir dans les locaux de leurs entreprises pendant la période du confinement, quand ils le pouvaient, bien sûr, quand ils pouvaient se déplacer, puisqu'il y avait des limites à la distance entre le lieu de travail
d'habitation. Sauf que le télétravail, ben, ce n'est pas pour tous. D'abord, pour les métiers manuels, ce n'est pas possible. Hein. Quand on est maçon, on ne peut pas télétravailler. Et puis, quand on a un appartement exigu, quand on a une grande famille, ben, ce n'est pas toujours facile de travailler avec ses enfants.
C'est vrai, vous avez raison, notamment pour les métiers manuels, mais pas seulement. Mais c'est quand même aussi possible, si vous voulez, pour un secteur qui rassemble la restauration, l'immobilier, l'information, la communication, l'enseignement, l'administration publique, l'action sociale et toutes les activités financières.
Donc,
c'est possible. Et c'est vrai que c'est recommandé. Vous avez, par exemple, des régions en France, notamment un plateau industriel très intéressant. Je l'ai relevé là dernièrement dans le Val de Seine. Pour Accor, Safran, Icad, Microsoft, Orange, Capgemini, Vaugeot, Coca-Cola, eh bien, les quartiers, ce sont des quartiers très industrieux qui sont vides de leurs salariés, au moins pour moitié, dans le Val, justement, le Val de Seine.
Le Val de Seine. Catherine Ney, c'est tout le rapport au travail qui est finalement en train de se réinventer, parce que le télétravail est en train de se pérenniser dans les usages des entreprises.
Oui, mais il faut bien dire que la crise a accéléré une mutation du travail qui était déjà en germe avant.
Parce complètement.
Parce que tous les grands groupes avaient déjà autorisé à leur demande les salariés à travailler 2 jours, 3 jours chez eux.
Pas tous les groupes,
Beaucoup. Oui. Enfin, en tous les cas, ceux qui pouvaient le faire, ceux qui étaient dans les bureaux, évidemment, pas les ingénieurs, pas ceux qui étaient sur le terrain, pour qui c'est impossible. Mais dans tous ces grands groupes, c'était pas plus de 2 jours, ou alors c'était 1 semaine sur 2, enfin, on s'arrange, parce que chacun sait bien que dans une entreprise, eh bien, le bureau sert à développer un sentiment d'appartenance. Les employés s'y déplacent. Dans les collectifs, il faut des moments pour rien, où on parle dans le couloir, où on se parle de la maison. C'est du lien social.
C'est du lien social.
Voilà. Et on en a besoin pour se dire qu'on appartient à une équipe.
Donc c'est peut-être là les limites du télétravail.
Voilà, c'est la limite de la télétravail. Alors, ce qui est nouveau, c'est que cette chose qui se généralise, enfin le télétravail qui se généralise, va aussi avoir des implications. Ça change la façon d'organiser l'espace à l'intérieur des espaces de bureaux. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait plus de cloisons. On peut faire des limitations d'espace avec des armoires, avec des choses comme ça. C'est vrai que toutes les entreprises qui ont investi dans les bureaux, comme Accor dans le Val-de-Seine ou encore Orange, sont complètement en train de réviser l'ordonnancement des bureaux. Il n'y a plus de bureaux individuels. On ne laisse pas son ordinateur au bureau et tout ça parce que
les espaces partagés. Voilà. Et c'est vrai que vous disiez que la crise a poussé cette évolution dans les usages de notre rapport au travail, car 26% des clusters en Île-de-France, par exemple, se créent dans le milieu professionnel. Donc il y a aussi un enjeu sanitaire. Alors on continue d'en parler dans quelques secondes, 18h40 avec les grandes voix, Charles Villeneuve et Catherine Ney. Mais vous allez voir que le télétravail n'a pas que des avantages. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours avec les grandes voix, le débat, Charles Villeneuve et Catherine Ney. Ce soir, on parle de la révolution du télétravail. Vous savez que le gouvernement incite les Français et les entreprises à pratiquer de plus en plus le télétravail. Des négociations, on va d'ailleurs en parler, sont en cours entre les partenaires sociaux pour définir un nouveau cadre pour ce télétravail. Une réunion est prévue le 3 novembre prochain. Vous savez que la dernière réunion à ce sujet remontait à 2005, c'est dire si le sujet ne s'était pas imposé dans le débat public. Mais suite à la crise sanitaire, évidemment, les choses ont changé. Alors, je disais juste avant la pause que le télétravail a aussi des inconvénients. Par exemple, on y pense peu, par exemple pour les pressings.
Ceux qui sont en costume habituellement et en chemise, on les voit pas, ceux-là. Les gens ne sont pas repartis au travail, donc on attend. Si tout le monde se met au télétravail, on ferme le pressing.
Mais voilà, le pressing, on n'y pense pas. Mais les gens ne mettent plus de costumes, ne mettent plus de chemises, car ils ne vont plus travailler. Donc les pressings ne fonctionnent plus. Alors ça peut paraître anecdotique, mais par exemple, dans le quartier de la Défense, vous savez que quasiment 50% des salariés sont en télétravail. Par conséquent, les commerçants, les restaurateurs, les bars ne font plus recette et l'activité a chuté de 56%. C'est un problème, ça, tout de même, Charles Villeneuve.
Bien sûr, c'est un problème. C'est un problème même aussi quand on ferme, moi je trouve, que c'est un peu excessif, les fermetures, si vous voulez, d'un mois ou de 2-3 semaines dans certains endroits qui respectent formidablement les distanciations sociale qui vous passe en permanence de l'hydroalcool sur les mains, enfin que vous avez à disposition, qui désinfecte les appareils et tout, comme les clubs de sport. Et les clubs de sport, justement, sont en train, vont fermer boutique au moins à 30-40% si ça continue comme ça.
Oui.
Moi, je les fréquente, donc c'est pour ça que je vous parle. Et j'ai sauté du pressing à la salle de sport. Mais le pressing, il est bien évident. D'ailleurs, Catherine Ney, justement, durant la pause, faisait une remarque en disant « À partir du moment où on va moins au restaurant, et comme on reste chez soi en survêtement ou avec un jean, etc., on salit moins. Donc, on n'a plus besoin de déposer ses chemises, etc. etc. »
Vous savez qu'il y a une chute considérable, par exemple, des ventes de rouge à lèvres. Mais si considérable, parce qu'avec les masques, les femmes ne mettent plus de rouge à lèvres, si considérable que ça pose un problème pour l'industrie du secteur français, notamment.
Oui, alors on va réinventer un rouge baiser qu'on peut garder, qui ne s'enlève pas, que le masque n'enlève pas. Mais dans une entreprise qui fabrique le télétravail, enfin, ceux qui viennent travailler ont aussi des problèmes. Parce que vous voyez, pour la cantine, eh bien, par exemple, chez Total, il faut s'inscrire sur une application pour aller à la cantine, prendre son tour, attendre, parce qu'il faut respecter les distances barrières et tout ça. Et même pour une réunion avec 10 personnes, eh bien, il faut s'installer dans une salle qui contient 20 personnes.
C'est et le summum de l'individualisme de la société.
Donc, on fait de moins en moins de réunions et les gens attendent des heures pour aller déjeuner. Tout prend plus de temps. Et c'est vrai que dans ce cas-là, les salariés qui n'étaient pas adeptes du télétravail choisissent de travailler chez eux.
Alors sur les négociations, je voudrais simplement en dire un mot parce que c'est un point de négociation important. Le patronat qui était opposé a accepté de négocier un cadre pour ce télétravail avec les partenaires sociaux. Donc il y a deux réunions de prévues, le 3 novembre notamment, sur les points suivants, la charge de travail, la prise en charge des coûts liés au télétravail, la déconnexion aussi. À partir de quel moment on arrête de travailler quand on est chez soi, alors qu'on peut être joignable par définition toute la journée. Et puis il y a la protection des données et enfin évidemment la garde des enfants.
Charles alors justement, quand vous dites la déconnexion, le danger du télétravail, surtout quand on en abuse, c'est le facteur humain et psychologique. Et vous avez besoin très souvent d'être managé. D'ailleurs, ça n'épuise pas seulement la solitude, de toute façon, fait que c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous donnais le sondage, 66% de ceux qui étaient affectés au télétravail par rapport à certaines entreprises aimaient bien venir durant le confinement voir, si vous voulez, comment ça fonctionnait, parce qu'ils ont besoin d'un management, ils ont besoin d'un entourage. Les femmes et les hommes ne sont pas des robots. Alors, mais ce qui m'a étonné, si vous voulez, dans les mesures qui ont été faites dernièrement, j'en parlais avec un autre de nos partenaires dans les grandes voies, c'est-à-dire avec Carrérou tout à l'heure, et j'ai découvert qu'en réalité, ça n'affecte pas vraiment considérablement la productivité. Au contraire, l'expérience des 3 mois de confinement que nous venons de vivre n'a pas affecté profondément la productivité. Et ça, c'est quand même un étonnement par rapport aux précautions qu'on a pu prendre. Parce que même en 39-45, je remonte à 39-45, Churchill qui avait promis à tous les Britanniques, si vous voulez, du sang et des larmes, tous les jours, prenait en compte justement l'opinion publique en leur disant « je suis là ». Nous sommes là, il faut qu'on se tienne les coudes, vous êtes isolés dans vos maisons, mais je pense à vous, etc. C'est-à-dire que cet encadrement, cet encouragement sur le plan psychologique, on en a besoin aussi quand on travaille dans une entreprise.
Non, mais Catherine. Ici, dans la maison, on connaît des journalistes et des personnes qui nous préparent des dossiers, qui ne viennent plus et qui travaillent chez elles, et très bien. Mais elles disent aussi que l'avantage, c'est qu'elles travaillent mieux parce qu'il n'y a plus cette fatigue d'avoir une heure et demie de trajet à l'aller, une heure et demie au retour, et donc sont plus disponibles.
C'est vrai.
Et les gens travaillent chez eux et sont moins fatigués.
Je pense qu'en conclusion, on peut dire que le télétravail, c'est un bon équilibre entre un peu de télétravail et un peu de travail
Mais surtout,
au bureau pour ceux qui peuvent.
Il ne faut pas s'abstenir pour définitivement de venir au bureau. Il faut venir au bureau pour voir les collègues,
voir les confrères,
il faut se parler.
Et créer une émulation aussi, c'est ça qui crée de la productivité.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les grandes voix suite avec Charles Villeneuve et Catherine Ney. Et ce soir, on s'intéresse à présent à Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre a quitté le devant de la scène, mais il n'est jamais très loin. Un repas de retrouvailles a eu lieu lundi soir avec le Président de la République. Et l'idée qu'il joue un nouveau rôle dans la majorité est en train de faire son chemin. Édouard Philippe, qui était à notre micro le 14 septembre.
C'est une période de liberté physique et intellectuelle, et que ça se fête aussi.
C'est une forme de liberté retrouvée, mais
c'est pour un temps.
Non, la liberté, c'est éternel. C'est une liberté de ton, une liberté de choix, une liberté d'expression. C'est important, la liberté.
Voilà, Édouard Philippe, le 14 septembre dernier, au micro de Sébastien Krebs. Édouard Philippe serait-il devenu incontournable, Catherine Ney?
Ben, incontournable, pourquoi?
Incontournable,
il est
pour
incontournable,
le président Macron.
Dans tous les cas, c'est l'homme le plus populaire dans la classe politique aujourd'hui, même à des taux plus de 56-57% d'opinion positive. Et puis, il n'y a que des louanges, 63% le trouvent compétent. Et là, à la fois la gauche et la droite, il y a une sorte d'Édouard Philippe Mania.
Mania, bon, oui.
Voilà.
Oui.
Mais que
qui agace d'ailleurs, paraît-il, les
mais
cadres
agace,
de la majorité.
Mais le problème est un problème personnel. Que va-t-il faire de cette popularité? À
alors,
quoi ça
réponse.
Sert? Eh bien, réponse. C'est-à-dire que, pour l'instant, est-ce qu'il sera Michel Rocard qui se réfacera, c'est-à-dire ou qu'il n'ira pas? Est-ce qu'il va être un Juppé et qu'il laissera le président? Ou est-ce qu'à un moment, si Emmanuel Macron était empêché pour X raisons, est-ce qu'il ira ou pas?
Parce qu'il n'ira pas contre Emmanuel Macron, ça c'est impossible. Il ne sera pas le sauveur de la droite.
En tous les cas...
Impossible en politique.
Impossible n'est pas... en politique, on ne peut pas le dire. En tous les cas, un de ses amis dit qu'il est trop orgueilleux pour s'abaisser à ça. C'est-à-dire que c'est un type qui a la loyauté au fond de lui-même et il veut se regarder dans la glace.
Mais regardez
et dire,
Alain Juppé, la loyauté parfois, ça...
Voilà. Bon, alors, donc,
on passe à côté de son destin.
Il est populaire, mais s'il ne joue pas... Certains de ses amis disent s'il n'y va pas cette fois-ci... Bien, dans 5 ans, il risque d'être oublié. Donc, laissé passer sa chance.
Quelle place peut-il jouer auprès du président Macron qui souhaite lui donner un rôle particulier à Édouard Philippe, Charles Villeneuve?
Moi, je crois qu'il a besoin de lui dans le dispositif pour la campagne présidentielle de 2022. Il a besoin, pour les raisons d'ailleurs exposées par Catherine à l'instant, c'est qu'il y a notamment, évidemment, dans la classe politique, mais surtout... dans l'opinion publique, et surtout à droite, une nouvelle extase d'Édouard Philippe. Il est à 75% dans les électeurs de droite, et notamment les Républicains, mais pas seulement, aussi le centre droit, etc. Alors que ce n'est pas sa tasse de thé, les centristes.
Oui.
C'est vrai. Alors, il a besoin, si vous voulez, de ce porte-bonheur, en tout cas de ce draineur de voix.
Or, mais il a une utilité politique aussi pour le président de la République, c'est-à-dire aller... draguer des élus LR.
C'est un aspirateur à voix.
Oui, mais au-delà de l'aspirateur, aller draguer des élus pour qu'ils rallient
Bien sûr, il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont tentés. Déjà, Emmanuel Macron, quand il est allé sur la Côte d'Azur, avant même la catastrophe, justement, des Alpes-Maritimes, de Saint-Martin, de Vésubie, il a vu très longuement Hubert Falco, le maire de Toulon, qui est un républicain bon teint depuis très longtemps, et sarkozyste aussi, qui avait rallié Juppé au moment des primaires de la droite. Mais il est resté 2h30 avec lui. Il a Estrosi. Il a évidemment l'un des collaborateurs les plus fidèles aussi à Estrosi depuis qu'il est président de PACA Provence-Côte d'Azur, c'est Muselier, qui est président de de PACA, de la région. Donc. Et puis, si vous voulez... Il n'oublie pas de se rappeler en permanence, sans parler de politique intérieure, sans dire un mot qui fâche, à l'attention justement des électeurs et même de la classe politique. Puisque je ne vais pas vous énumérer toutes ces apparitions, mais ne serait-ce que cet été cours d'un match amical, Le Havre-PSG, on l'a vu à l'écran. Il va aux réunions de boxe, parce que vous savez que c'est un sportif, c'est un boxeur, qui s'entraîne avec assiduité à la boxe. Il est allé à l'Express pour raconter son escapade en Sicile avec sa fille.
Son débat
vendredi,
avec Anne Hidalgo notamment.
Oui, les 2 heures justement sur le Grand Paris. Pendant 2 jours, il a tenu de façon des raisonnements contradictoire par rapport à ce que pouvait dire Anne Hidalgo, mais surtout sur son temps paisible. Et
donc,
Blois, il est là pour parler des personnages historiques préférés.
Mais il est là, et ce qui est formidable, Catherine. C'est que tout ce que vient d'énumérer Charles, qu'il a fait, exactement, vraiment, mais on retient des choses qui pourraient être anecdotiques chez un autre. Mais pourquoi on le retient? C'est parce qu'il est très populaire.
Voilà.
Et c'est vrai qu'il a un talent particulier, c'est qu'il plaît naturellement comme d'autres déplaisent. Voilà, c'est quelque chose qui le dépasse un peu. Alors pourquoi? Parce qu'il a un charme particulier, parce qu'on lui sait gré, pendant la campagne du Covid, d'avoir été comme une sorte de tuteur, parlant sans pathos, en disant quelquefois « je me trompe », il rassurait, voyez. Et donc, il a tenu un rôle, et c'est ça qu'on retient, parce qu'on pourrait aussi lui en vouloir des 80 km/h, il y en a beaucoup qui lui en ont voulu, ou d'autres qui étaient pour la réforme des retraites, et lui, là, sur l'âge pivot, il ne voulait pas en démordre, mais il a eu raison. Pour d'autres, il a eu raison, parce que la réforme était mal engagée. Donc, c'est quelqu'un qui a une rigidité dont on ne lui en veut pas. Et au contraire, il apparaît comme un homme sur lequel on peut s'accrocher. C'est un élément moteur auquel on peut s'accrocher.
Bien, et on aura l'occasion d'en reparler. Charles, un mot.
Traduction au moment où la machine gouvernementale paraît grippée complètement.
Oui.
Traduction de ce que vient de dire Catherine Ney dans l'IFOP sur l'autorité, la rigueur et la clarté des explications. Il est 25 points au-dessus du président de la République.
18h56. Merci Charles Villeneuve. Merci Catherine Ney. On se retrouve dans quelques instants.
Europe 1, Julien Bugier.
Ce sera le club des idées comme chaque soir avec le débat. Comment se prémunir face aux épisodes météo extrêmes après le drame survenu dans les Alpes-Maritimes. On en débattra très largement avec nos invités.